VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter ce bulletin d'information du dimanche 2 juillet 2023. Il est 19h en temps universel. Au Mali, les militaires au pouvoir ont procédé samedi à un remaniement partiel du gouvernement, 8 jours après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de la Justice sont reconduits à leur poste, mais le gouvernement est fortement remanié avec 16 nominations. Un représentant de la coordination des mouvements de l'Azawad, principale alliance d'anciens rebelles, quitte le gouvernement. La médecin-colonel Assa Badialo Touré a été nommée au ministère de la Santé et du Développement social. En Sierra Leone, le parti présidentiel a remporté la majorité aux élections législatives samedi, selon les résultats de la commission électorale. Le SLPP a remporté 81 sièges et le principal parti d'opposition APC en a obtenu 54. 14 chefs traditionnels complètent le nouveau parlement. Le parti APC a jugé les élections truquées et annoncé qu'il renonçait à siéger à l'Assemblée nationale. Au Soudan, de violents combats entre l'armée et les paramilitaires secouaient Khartoum ce dimanche, avec des affrontements également intenses au Darfour, où des milices locales se mêlent aux hostilités. Selon l'ONU, la guerre a poussé près de 180 000 Darfouris à fuir au Tchad et près de 2,2 millions d'habitants ont été déplacés à l'intérieur du Soudan. Des centaines de milliers de personnes s'entassent dans 9 camps de l'État du Nil Blanc, indique Médecins sans frontières. Au Kenya, le président William Ruto a annoncé la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière imposée en 2018. Il a précisé que cette décision vise à créer des emplois et à développer l'économie. On ne peut pas avoir des arbres matures qui pourrissent dans les forêts alors que les habitants souffrent du manque de bois, a déclaré M. Ruto lors d'un service religieux à Molo. Il a assuré que le gouvernement maintient son objectif de planter 15 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années. Le moratoire avait été imposé par le gouvernement précédent pour éradiquer l'exploitation illégale et augmenter la couverture forestière du pays à 10%.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La France est sous le choc après une attaque à la voiture Bélier contre le domicile d'un maire lors d'une 5e nuit de violence. Selon le ministère de l'Intérieur, 719 personnes ont été interpellées au cours de cette nouvelle nuit de violence déclenchée par la mort d'un jeune tué par la police. Des émeutiers ont défoncé le portail de la maison de Vincent Jeanbrun, le maire de L'Haÿ-les-Roses près de Paris, à l'aide d'une voiture incendiée. L'épouse de cet élu et l'un de ses deux enfants ont été blessés. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. La grand-mère du jeune tué lors d'un contrôle routier a lancé un appel au calme. Le président Emmanuel Macron a annulé sa visite en Allemagne. Un point de la situation est prévu ce soir. Aux États-Unis, au moins 2 personnes ont été tuées et 28 autres blessées par des tirs lors d'une fête la nuit dernière à Baltimore. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé de nombreuses personnes ayant reçu des balles, indiqué le chef de la police, Rich Worley, précisant que 3 blessés sont dans un état critique. Il a prévenu que l'enquête serait longue car la scène du crime est vaste. Le maire de la ville, Brandon Scott, a jugé que cette tragédie n'aurait jamais dû se produire. Les forces russes avancent dans quatre zones de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine où ont lieu des combats acharnés, a déclaré ce dimanche la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ghana Myliar. L'ennemi avance dans les secteurs d'Avdikva, Marinka, Liman et Svatove, a-t-elle indiqué, précisant que les troupes ukrainiennes avancent avec un succès partiel sur le flanc de Bakhmut ainsi que près de Berdiansk et Mélitopol. Et les chefs d'État du Mercosur se retrouvent lundi et mardi à Port Iguaçu en Argentine, sans projet détaillé leur permettant de répondre aux préoccupations européennes sur l'environnement et d'obtenir ainsi la ratification de l'accord commercial Union européenne-Mercosur.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans le dialogue des religions consacré ce soir à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Eric Manelakiza avec vous au micro, Lionel Lunanilagahima assure la mise en onde. Nous explorons la problématique entourant ce phénomène complexe qui se réfère à la capacité des individus de s'adapter et d'adopter différentes pratiques religieuses selon leur environnement social. Comment cet effet influence-t-il la dynamique religieuse en Afrique? Quelles sont les implications pour les croyants et les communautés religieuses? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Benoît Eli Awazimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, Cercle ECAD, basé à Ottawa au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine, est avec nous en ligne. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Eric et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Jean-Pierre Karegeye, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie. Il a publié et co-dirigé des ouvrages sur la religion, notamment Récits du génocide. Jean-Pierre, bonsoir.
Et bonsoir Eric.
Oui, on parle de la sociologie de la religion, donc qui étudie les manifestations sociales et les dynamiques des croyances religieuses dans les sociétés humaines. Elle examine aussi comment la religion façonne les comportements, les interactions sociales, les structures sociales et les identités individuelles et collectives. Jean-Pierre, comment l'effet caméléon en sociologie de la religion se manifeste dans la société africaine?
Disons d'abord que l'expression elle-même, donc l'effet caméléon est d'abord propre à la psychologie, bien sûr, et qu'on utilise aussi dans d'autres disciplines, comme vous l'avez bien dit, la sociologie de la religion. Mais beaucoup plus en psychologie pour désigner une tendance à s'adapter ou adapter son comportement. Donc c'est beaucoup plus en termes de comportement ou ses mots ou sa personnalité à la personne qui se trouve en face de nous. Donc ça, c'était plus d'un individu à l'autre. Bon, évidemment, parce que ça a été conçu, ou plutôt observé, à partir des sociétés occidentales. Donc ça, c'est une façon où on peut comprendre d'abord l'effet caméléon, ou ce qu'on appelle le syndrome caméléon, de caméléon. Mais alors, la question que je me pose quand vous dites comment se manifeste l'effet caméléon dans la société africaine, et là, j'aurais une question pour vous. Et on parle de quel caméléon? Et qu'est-ce qu'on retient de lui? Pourquoi? Parce que en Afrique, je penserais plutôt à Madou Mpateba, avec sa fable de « À l'école du caméléon », et en s'adressant aux jeunes quand il dit « Si j'ai un conseil à vous donner, je vous dirai « Ouvrez votre cœur ». Et ça, c'est Amadou Mpateba. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte de phénoménologie du regard, du comportement du caméléon. Et il observe tout et il fait une analogie. Il analyse, par exemple, le regard. Et puis, à travers le regard, il passe à son adaptation, comment le caméléon s'adapte à l'environnement. Et ça, nous sommes donc directement à l'effet du caméléon. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Amadou Mpateba? Il dit, et là, voilà, le caméléon, c'est un grand professeur. Et à travers ça, lui dit, cette adaptation, il ne s'agit pas, et ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est plutôt une façon, c'est la tolérance, le savoir-vivre. Donc, face à l'autre, je m'adapte dans un sens positif. Voilà comment lui analyse. Donc, alors, si vous posez cette question, je dirais, mais alors, pas de l'effet caméléon, lequel? Voilà, ou bien qu'est-ce qu'on retient de lui? Donc, d'une part, et d'ailleurs, avant de parler d'une part, disons, dans nos sociétés africaines, quand on pense à cette expression, par exemple, du Cameroun, un proverbe qui est un proverbe aussi, qui dit voilà, quand on change le tam-tam de place, il a un autre ton. Donc, ça, et c'est comme on dit aussi en français, il faut hurler avec les loups. Voyons donc, ça c'est de façon générale. Donc moi je dirais, ce fait de s'adapter, évidemment, en religion, si nous parlons de celui de la religion, évidemment il ne s'agit pas de la théologie, mais il s'agit de regarder la religion comme un fait social, oui, et dans ce cas-là, je pourrais dire qu'au niveau de l'Afrique, évidemment, et la religion ou en société fonctionne comme à travers un certain nombre des normes et que les gens évidemment s'adaptent ou plutôt ou adhèrent à un certain comportement comme fait social évidemment ou ils s'identifient par rapport à ça. Et donc est-ce qu'on appellerait ça le fait caméléon? Peut-être. Donc je dirais qu'il y a plus adhésion, qu'il y a plus adaptation. Et ce qui, au niveau de la religion, ce qui, pas qui disparaît, mais qui diminue, je dirais, c'est le sujet, en réalité. Parce que quand on adhère à une foi, surtout par exemple au niveau du christianisme, pas seulement le christianisme, mais même aussi l'islam, c'est-à-dire on dit la foi, et c'est pas seulement l'individu, c'est pas seulement l'individu, mais c'est-à-dire j'adhère à une communauté de foi. Donc dans ce cas-là, et ça signifierait qu'il y a le fait, c'est le fait donc de cette communauté et, à laquelle je m'identifie.
On peut parler de conversion opportuniste.
Bon, il y a conviction. Je parlerai plutôt de conviction. Donc les gens, je parlerai plutôt de conviction. Mais ce qui peut être mis en cause, enfin mis en cause, plutôt mis en procès, ou la question serait plutôt est-ce que j'y adhère de façon rationnelle, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, si je m'identifie, donc je ne fais que ce que ma religion me demande de faire dans ce cas-là. Donc, et là, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est une blague qu'on raconte, mais qui m'ont des effets, parce que là, vous évoquez le cas, par exemple, de la religion. Quelqu'un disait, il est très facile de négocier avec un terroriste qu'un fanatique religieux. Parce qu'un terroriste, il pose un acte de violence pour obtenir quelque chose, c'est pour pouvoir négocier. Mais on ne peut pas négocier avec un fanatique.
Benoît, quels sont les facteurs socioculturels qui influencent l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique ?
Oui, que je rebondis aussi à ce que mon interlocuteur a donné comme base au niveau de la sociologie de la religion. Mais j'ajouterai quelque chose, c'est-à-dire, dans nos analyses, il faudra aussi une certaine subtilité herméneutique, ça signifie une subtilité dans l'interprétation. Parce qu'on ne peut pas déconnecter totalement l'approche d'une phénoménologie sociale des religions et le contenu dogmatique, hein, l'orthodoxie des religions, parce que les acteurs agissent par rapport aux valeurs, à l'orthodoxie dont ils se font l'idée par rapport à leurs églises ou religions respectives. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Moi, je rebondirai en deux temps. Dans un premier temps, effectivement, il faut faire un travail de décryptage, de sociographie, d'une phénoménologie sociale. Mon collègue l'a fait, c'est très bien. Mais alors, il y a deux types de sociétés, largement, parce qu'on parle de l'Afrique. Mais pour les religions, étant donné que la plupart des grandes religions sont importées, alors, dans un premier temps, donc la première partie de mon approche, qui reste encore au niveau de la sociologie des religions, donc c'est que, d'une part, en Occident, là où nous sommes, aux États-Unis, au Canada, en France, nous sommes dans des sociétés de démocratie néolibérale. Hein, rapidement, où il y a la technoscience, comme l'a dit Habermas, les sociétés industrielles avancées, où on a dégagé un espace laïque où le religieux n'a rien à faire, où ce sont les lois politiques et démocratiques qui dirigent le vivre ensemble. Tout à fait bien noté. Mais en Afrique, et c'est ça le problème de l'Afrique, il faut vraiment une approche, j'appelle ça pluridisciplinaire, une approche stéréoscopique, un regard stéréoscopique, parce qu'il faut superposer plusieurs paramètres. C'est-à-dire en Afrique, en gros, nous sommes dans des sociétés malgré l'apparente des modernisation des médias sociaux, des révolutions numériques, ce sont des sociétés qui sont régies, qui connaissent avec une grande vélocité un processus souterrain et profond de retraditionnalisation. Ce sont les schèmes des religions traditionnelles africaines, notamment rapport visible et invisible, le monde des esprits, les sorcelleries, qui prédéterminent, même qui surdéterminent les configurations politiques et sociales en Afrique. Vous voyez, ça c'est les deux, une certaine antinomie entre les sociétés occidentales néolibérales, où la technoscience règne, mais en Afrique, malgré une apparente modernisation de surface, il y a ces normes, ces valeurs du monde invisible, du monde des esprits qui prévalent. Alors du coup, pour me concentrer maintenant sur l'Afrique après cette première approche, il faut tenir compte Afrique et diaspora. Pour les diasporas, mon collègue l'a déjà fait, par exemple ici au Canada, hein, moi-même j'ai fait une expérience d'enseignement de langue. On ne peut pas parler de religion dans les écoles de langue du gouvernement fédéral. Mais en même temps, dans le même ministère du Canada, il y a des espaces pour les juifs, les musulmans ou les chrétiens, s'ils veulent prier. Ça, c'est la force du Canada. Bon, il y a aussi d'autres exemples que je peux donner. Il y a les écoles hassidiques ici à Montréal, les juifs hassidiques, qui ont leur école privée et qui ne suivent pas tout à fait le programme de l'éducation du Québec. Plusieurs fois, le ministre du Québec s'est plaint, mais ça se limite là. Ils ont leur vision du monde, leur niveau vision de la création. Il y a aussi, je termine, le mondial qui est passé au Koweït. Malgré les promesses des Koweïtiens, cela c'est la charia qui dirige. Donc il n'y a pas de monde laïque dans ces pays arabo-musulmans, c'est la charia, donc la loi de Dieu, de Allah, qui dirige. Ça c'est ma première partie, Eric. Maintenant, permets-moi de finir dans la deuxième partie. Je disais que nous ne pouvons pas déconnecter totalement une approche de sociologie de religion et une approche théologique, parce que les acteurs religieux agissent par rapport à leur relation ultime à Dieu. C'est parce qu'ils sont conscients que c'est Dieu qui a le dernier mot qu'il va avoir la priorité sur les conditionnements sociaux. Alors je donne les deux exemples rapidement. D'abord par rapport au christianisme, mais quel est le problème qui se pose? Ici en Occident, il y a des églises qui sont vides, vous le savez, et même c'est le bataillon des prêtres africains qui les font tourner, pour la moitié des gens, des églises, j'ai déjà dit ça. Mais en Afrique, c'est plein, pas seulement les églises, mais partout, même dans les bus, même dans les rues, même dans les meetings politiques, partout on ne parle que de Dieu, que de religion. Donc les conditionnements sociaux, d'une part en Occident, empêchent l'expression, l'épanouissement des religions. En Afrique même, il y a un excès. C'est de façon excessive. Dieu est partout. Même là où nous devrions avoir notre responsabilité. Alors, je termine en disant que, mais pourquoi toutes ces affaires? Mais c'est parce que dans la Bible, déjà, il y a une tension insurmontable entre, d'une part, la théologie sacerdotale, et ça c'est important pour le discernement des religions, qui dit que les hommes, nous sommes dans le péché, et Dieu est saint, si nous approchons de lui, nous allons mourir. Donc, il faut une classe sacerdotale, la tribu de Lévi et la famille de Aaron, qui sont choisis par Dieu lui-même pour servir de tampon entre Dieu et les hommes pécheurs. Les prêtres, ils sont pécheurs, mais pas qu'ils sont choisis par Dieu.
Benoît,
le culte sacerdotal, ça signifie le culte, est nécessaire pour nous approcher de Dieu, moyennant la médiation de la classe sacerdotale.
Benoît,
oui. Mais d'autre part, c'est tout le livre historique, prophétique et les prophètes, le roi aux prophètes, la théologie prophétique de Théonomie qui dit que les promesses de Dieu sont conditionnelles à nos actes d'obéissance à ses commandements. Et cette théologie, effectivement, je prends l'exemple de l'exil qui est central, 587 avant Jésus-Christ, le temple est détruit, la monarchie détruite, le dernier roi, on l'a égorgé, c'est Ézéchias, et le temple est détruit et ils perdent et la terre et tout ce que Dieu a promis, la terre, le temple, la royauté, est perdue parce qu'ils n'ont pas suivi la loi. Et le texte, surtout le livre des rois, dit que Dieu lui-même a décidé de la destruction du temple depuis l'exil. Hein? Donc, alors, je résume pourquoi cette tension. C'est parce que, d'une part, en Afrique, on met l'emphase sur le culte. Hein? Le culte.
c'est ce qui domine. Mais ici, à l'Occident, les églises ferment, mais quand même, si beaucoup de gens veulent vivre ici, c'est parce qu'ils ont assimilé certaines valeurs de la responsabilité de l'homme devant Dieu, qui est appelé aussi à régir ses affaires mondaines. Donc, je résume mon intervention en disant que d'une part, et ça mon collègue l'a fait, il faut une phénoménologie sociale de la religion, mais d'autre part, cette phénoménologie se réside, hein, les concepts sans expérience sont vides, et l'expérience sans concept est obscure, est muette. Il faut intervenir l'orthodoxie qui fait que quelqu'un, je finis par cet exemple, voit par exemple, dans une ici j'ai fait un jour Ottawa-Montréal, plutôt Ottawa-Paris, et il était l'heure de prière pour un juif assidu qui était assis, ils étaient deux, ils ont bloqué tout un couloir dans l'avion pour faire la prière. Par là, je voulais montrer la limite de l'effet caméléon qui peut faire croire que les individus s'adaptent à tout prix aux contraintes sociales, mais là, on a un cas efficient. En plus, dans les sociétés où le religieux est exclu du monde de l'espace global, mais dans l'avion, quelqu'un, peut-être pour lui, le culte le connecte à Dieu directement. Du coup, toutes les autres valeurs et considérations tombent dans l'eau.
Merci Benoît de mentionner cet aspect de la mondialisation et des migrations qui ont contribué à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Et cet exemple de l'introduction du christianisme et de l'islam sont des exemples historiques ou contemporains marquants de l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Jean-Pierre, il y a cette observation qu'on voit en Afrique, notamment une double affiliation religieuse. Certaines personnes peuvent entretenir une double affiliation religieuse, pratiquant simultanément différentes religions, et cette pratique peut être motivée par des raisons familiales, des mariages mixtes ou le désir de répondre à des besoins spirituels divers. Ma question est la suivante, comment l'effet caméléon affecte-t-il la construction de l'identité religieuse en Afrique?
Oui, juste avant de parler de l'identité, religieuse, je voudrais revenir sur ce que mon collègue, qui est professeur aussi, Benoît, ce qu'il vient de dire, et le lien d'abord qui entre l'individu et cette communauté réelle ou imaginaire à travers la religion et l'effet de l'imitation, comme on le disait. Juste prenant l'exemple du christianisme, mais cela existe dans plusieurs religions, il n'y a pas que le christianisme. Donc, depuis le 4e siècle, avec les moines, par exemple, et du désert, il y avait cette locution latine, perinde, a cadaver. Donc, où, carrément, ça signifie vivre à la manière d'un cadavre. Et plus tard, par exemple, au 6e siècle, il y a, avec Saint Ignace de Loyola, par exemple, chez les Jésuites, il parlera de l'obéissance, obéir comme un cadavre. Et donc, dans ce sens-là, on pourrait dire, si obéir comme un cadavre, ça dit qu'il faut mourir en soi, donc ça fait le sujet, comme je disais au début, n'existe plus. Donc là, et je suis, donc tout d'un coup, on peut dire, je suis dans l'imitation. Et très probablement, enfin pas très probablement, même cette notion, par exemple, d'imitation qui est recommandée, par exemple, l'imitation des saints. C'est-à-dire, il y a des modèles qu'on vous impose, qui ont fait du bien dans leur société, certes, mais qui deviennent, c'est comme s'il faut marcher à l'autre. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que cela est un fait aussi à analyser ou davantage. Mais aussi pour ce qui est des sociétés africaines, je reviendrai à votre question ou à propos de la question identitaire, mais c'est qu'aussi, c'est que, disons, ce sujet nous amène aussi à réfléchir sur un certain nombre de logiques fondamentales qu'on trouve dans toutes ces religions. Et c'est, par exemple, leur relation au conflit qu'elle génère de plus en plus. Et là, c'est aussi l'ambiguïté. Et donc, cela est certainement lié aussi à l'identité, parce que ceux qui ont étudié ce qu'on appelle l'extrémisme religieux, ou plutôt les relations multiples entre conflits donc dans nos sociétés, ont observé qu'il y avait un élément identitaire qui déclenchait davantage ou qui permettait cette relation entre conflit et religion, et des conflits extrêmement violents, donc où la violence pour le dire extrême même. Donc là, ça m'amène à la question d'identité. Donc je crois que dans le cas de l'Afrique, il y a plusieurs raisons, comme vous avez dit, c'est pas seulement dans le cas de mariage mixte. Et ici, j'aimerais reprendre une expression qui a été utilisée par le théologien camerounais qui parlait des concubinages religieux dans ce cas d'identité, pas en termes de mariage, mais le fait que quelqu'un qui se dit musulman ou chrétien ou autre religion, mais continuer à pratiquer, par exemple, la religion traditionnelle. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est que cette religion traditionnelle est le fait d'abord de son identité première. Ce n'est pas seulement une identité, je dirais, qu'on embrasse, comme on embrassait le christianisme ou l'islam, mais c'est même essentiel, ou on pourrait le dire, c'est ce qui le définit fondamentalement comme un Africain fondamental, comme un Noir fondamental, donc dans sa société, où on ne peut même pas séparer la religion et la vie réelle. Et c'est ce que disait Aimé Seigneur, que dans les traditions africaines, où c'est le Noir, il n'y a pas cette dualité entre le sacré et le profane. Et donc, alors cet Africain qui vit profondément comme Africain, il ne peut pas renoncer à son africanité. Donc il sera musulman, mais il demeure noir et africain. Il sera chrétien ou chrétienne, la même chose. Donc c'est ça ce qui pourrait expliquer cette double identité entre guillemets. Mais la deuxième raison, et là je reviens à Laura Jean-Marquella.
Très rapidement, Jean-Pierre.
Oui, je finis très rapidement. C'est qu'il avait observé, parce qu'on parle des religions et sociétés, ou la sociologie de la religion, c'est qu'il avait constaté que les religions portées chrétiennes, musulmanes, n'arrivaient pas à répondre aux besoins réels de la population, du coup, quelqu'un peut être très malade, quelqu'un peut manquer de soucis, donc du coup, il retourne entre guillemets chez le féticheur ou un guérisseur, disons, où il essaie de trouver des solutions qu'il n'avait pas avant. Et cela permet donc le concubinage. Le matin, il peut être à la messe, et le soir, il est chez le guérisseur. Et donc ça pourrait expliquer aussi ces doubles identités.
Merci, il nous reste moins de 3 minutes. On va les partager. Jean-Pierre, je vais commencer avec vous. On observe parfois des individus qui se convertissent à une religion particulière, non pas par conviction spirituelle profonde, mais plutôt par opportunisme social ou économique. Existe-t-il des initiatives ou des approches visant à atténuer l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique et à promouvoir une plus grande tolérance religieuse et diversité? En une minute.
Il y a beaucoup de questions dans votre question, mais juste, je peux répondre, prendre l'un ou l'autre élément très, très rapidement. Bon, d'abord, opportunisme, mais je ne sais pas, je ne peux pas juger de la décision de quelqu'un d'adhérer à une religion, à moins qu'on parle d'un enfant, par exemple, il y a aussi évidemment un enfant qu'on baptise sans demander son avis. Mais ici, j'aimerais citer un ancien missionnaire qui est arrivé au 19e siècle à Kinshasa du côté à Kinshasa, et il pensait à la conversion de la population. Et voilà ce qu'il donna comme message à d'autres prêtres, à d'autres missionnaires.
En 20 secondes.
Je le cite, il dit, le nègre, il faut le prendre par l'estomac. Donc, pour la conversion, donc opportuniste. Ah. Évidemment, si vous venez avec des choses que vous vendez aux gens, vous venez gratuitement, pour certaines personnes peuvent être attirées.
Benoît Ouazi, il nous reste 30 secondes. Benoît, la parole est à vous.
Écoute, Eric, en tout cas, merci. Alors, je rapporte quand même aux écrits, mais ce que mon collègue a dit, en gros, c'est ça, comme j'ai dit au début, il y a en Afrique un processus souterrain génétique profond de retraditionnalisation. Et je ratifie ce que mon collègue a dit, que les religions traditionnelles africaines sont notre première ipséité, c'est toute notre identité, c'est notre âme. C'est à partir de cette âme de nos religions traditionnelles africaines que nous sommes chrétiens ou musulmans, d'où le travail colossal. Je parle du point de vue chrétien qui m'intéresse.
Merci Benoît Awazim Bambi Kungwa. On n'a plus de temps pour continuer la discussion. Merci en tout cas pour votre contribution et votre disponibilité. Merci à Jean-Pierre Kaleguéye pour sa contribution. Lionel Lunanila Gahima sur la mise en onde. Eric Manila Kizé était avec vous. On parlait de la problématique entourant le phénomène de l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Au revoir et à très bientôt.